Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs, Yves-Marie Bercé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres poursuit sa série sur les personnages méconnus du XVIIe. Aujourd'hui, c'est Gaston d'Orléans dont il s'agit, le frère rebelle de Louis XIII. Gaston d'Orléans, disons tout de suite qu'il est né en 1608, mort en 1660. Yves-Marie Bercé, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi Gaston d'Orléans a-t-il été appelé le frère rebelle ? C'est le frère de Louis XIII, je viens de le dire. C'est donc le fils d'Henri IV, l'oncle de Louis XIV. Il a fasciné autant qu'intrigué ses contemporains. Mais pourquoi a-t-il une légende noire ?
Bien, chaque pays a construit une histoire nationale qui est en grande partie commémorative, qui est convenable. L'histoire de France, un genre littéraire qu'on appelle l'histoire de France, est inévitablement une histoire de l'État, de la construction de l'État, puisqu'après tout, ce qui est l'originalité française, c'est d'avoir eu depuis les origines, depuis le VIe siècle, un royaume qui commence à se situer au cœur, au centre du pays. Et par conséquent, une histoire de France, c'est nécessairement une chronique des évolutions de la construction de l'État dont les héros sont Richelieu, Mazarin, Louis XIV. Ce sont des personnages que, quelles que soient les convictions des historiens, qu'ils soient des jacobins ou bien des nostalgiques des fastes Louis XIViens, des personnages qui sont supposés avoir une destinée inévitable, nécessaire dans la construction de l'État. Et par conséquent, des opposants éventuels, comme l'a été Gaston d'Orléans, deviennent des boucs émissaires, enfin, ils jouent le mauvais rôle. Alors, ce mauvais rôle, il doit donc avoir été, pendant 30 ans, depuis sa naissance jusqu'à l'année 1638, qui a vu l'apparition d'un dauphin, le futur Louis XIV, pendant 30 ans, il a été l'héritier présomptif du trône, dans la mesure où son frère aîné, Louis XIII, était apparemment dépourvu de descendance, d'enfants, jusqu'à cette année 1638. Donc, 30 ans, il a été sur les marches du trône. Et puis ensuite, dans les années 1640-1650, auprès de la régente Anne d'Autriche, et pendant les années de Fronde, il a joué un rôle déterminant. Et il aurait pu imposer, s'il avait réussi dans ses entreprises, une version alternative de l'évolution de l'État. Je veux dire que la centralisation absolutiste qu'on voit se développer avec Richelieu puis avec Louis XIV aurait pu céder la place à une autre hypothèse, c'est-à-dire, on va la développer si vous voulez tout à l'heure, l'idée d'une monarchie mixte, c'est-à-dire où il y aurait une part de représentation des corps sociaux, c'est-à-dire des villes, de la noblesse, des gens des campagnes, à travers les assemblées d'États provinciaux ou d'États généraux.
Alors, c'est la raison pour laquelle l'historiographie change à son sujet, parce qu'en fait, c'est l'absolutisme qui a remporté le vent de l'histoire. Donc, les personnages comme lui, opposés à l'absolutisme, ne pouvaient que passer à la trappe. Est-ce que c'est ça ? Parce que oui. Quelle est la personnalité de Gaston ?
Un fait accompli que les historiens qui sont respectueux des faits, qui sont peu imaginatifs, reproduisent comme s'il s'agissait de nécessité, d'évidence. Or, il y a à chaque époque, si on arrête le temps, tout un tas de possibilités, d'hypothèses qui ne vont pas réussir, qui ne vont pas se concrétiser. Mais si on veut être fidèle à l'instant, il faut essayer de les comprendre, de les reconstituer. Et je crois que la destinée de Gaston nous offre la possibilité de cet exercice. Alors, il est donc le frère cadet de Louis XIII, il est le fils de Henri IV et de Marie de Médicis. Il naît en 1608, il n'a que 2 ans à la mort de son père Henri IV, et il va recevoir une éducation de prince extrêmement attentive, soignée, et il mérite, puisque on sait qu'il sera un personnage prodigieusement cultivé, amoureux de toutes les sciences de son temps. mécène, collectionneur, musicien.
N'oublions pas que c'est un Médicis par sa mère.
C'est un Médicis. Et puis, il a hérité, alors, du côté de son père, d'un caractère enjoué, insouciant peut-être, on pourra dire. Il n'a pas certainement la fermeté politique de son père, mais il en a le caractère joyeux, plaisant, débonnaire, bonhomme, qui l'oppose tout à fait au caractère sombre de son frère aîné, le roi Louis XIII. Alors, on sait par ailleurs que Gaston était bel homme, bien proportionné, on a ses portraits. C'était un brun aux yeux bleus et il était amoureux de la chasse, il aimait les femmes, il aimait la vie, il jouait gros jeux pendant les soirées. Il s'entourait d'artistes, de comédiens, de musiciens. C'était un prince aimable. Mais en même temps, il avait, et on le vérifiera dans la suite des péripéties politiques de son destin, il était inconstant. Alors, est-ce qu'il était lâche? Est-ce qu'il était paresseux? Certainement. Il pensait à tout, mais il ne voulait rien, a dit de lui le cardinal de Ré. On peut reprendre les destins amoureux du jeune prince. Lorsqu'il a 18 ans, le problème de son union matrimoniale se pose et c'est un problème politique puisqu'il semble que Louis XIII ne doive pas avoir d'enfants et on sait que Louis XIII est de santé très précaire. Par conséquent, l'avènement d'un roi Gaston n'est nullement inimaginable. Il s'agit donc d'envisager une alliance qui le séduirait, et lui, il pense à épouser une princesse étrangère qui, en quelque sorte, lui donnerait un rang particulier sur la scène internationale. C'est ce que pense aussi son gouverneur, le maréchal d'Ornano, colonel général des Corses. Et puis, il se heurte là à la volonté de Louis XIII et de Richelieu qui veulent lui faire épouser Marie de Montpensier. Et c'est ce qui survient effectivement. En 1626, il est contraint d'épouser cette très riche héritière. Le mariage se fait tristement, dit-on, à Nantes au mois d'août 1626. Il durera un an pendant lequel il mène une vie de chat de gouttière. Il a beaucoup d'escapades. Il joue gros jeux et puis il court les rues la nuit avec des jeunes gentilshommes de son âge, ce qu'il appelle son conseil de vauriennerie. Au bout d'un an, ils ont un enfant, une fille, qui sera plus tard connue sous le nom de la Grande Mademoiselle. Mais cette naissance, malheureusement, apporte la mort de sa mère. Une semaine après, Marie de Montpensier, duchesse d'Orléans, meurt. Alors là, quelques temps plus tard, passé en Lorraine, en 1629, il tombe amoureux de Marguerite de Lorraine, qu'il a aperçue. Il est aussi amoureux au même moment de Marie de Gonzague, qui est la fille du duc de Nevers. L'une et l'autre sont des jeunes filles qui ont entre 16 et 18 ans, qui ont reçu bien sûr des éducations princières, très accomplies. Les amours avec Marie de Gonzague, là aussi, se heurtent à l'opposition de Richelieu. Elle est destinée, on lui destine à lui d'autres partis. Marie de Gonzague, donc, s'en va en Italie et deviendra plus tard une reine de Pologne. Quant à Marguerite de Lorraine, la sœur cadette du duc Charles IV de Lorraine, il en devient amoureux fou, et il va, contre là aussi la volonté de son frère et de son terrible ministre, le cardinal de Richelieu, il va épouser secrètement la princesse Lorraine à Nancy, dans un couvent de Nancy, la nuit du 1er au 2 janvier 1632. La noce est célébrée par un moine qui a reçu pouvoir de l'évêque de Toul. Passera aux yeux donc de la cour de France comme un mariage clandestin. Et comme il est donc en exil politique, le Parlement de Paris, sur les instances du roi, déclare ce mariage nul, comme survenu secrètement, sans l'assentiment des responsables politiques qui doivent bien sûr intervenir quand il s'agit du mariage d'un fils de France.
Oui, mais c'était parce que c'était la Lorraine aussi que ça plaisait pas, parce que à ce moment-là, ça semblait pas bien pour la politique française de s'allier à la Lorraine.
Le Duc de Lorraine est dans ce moment allié des impériaux, et les perspectives d'intervention des Français dans la guerre qui fait rage en Allemagne les amèneraient bien sûr à traverser le territoire lorrain, à annexer les places fortes de Lorraine. Donc, dans l'immédiat, la politique voulue par Richelieu consiste à chasser le duc Charles IV et par conséquent à s'opposer à l'alliance du prince héritier avec une sœur de ce duc considéré comme ennemi. Mais alors, vous voyez, ce que le Parlement de Paris opère, c'est au nom de ce qui va entraîner l'idée d'annulation, c'est la conception qu'a le Parlement de défendre le droit des familles, des parents, contre celui des époux. Le duc d'Orléans va d'abord faire célébrer de seconde fois solennellement son mariage par l'archevêque de Malines, dans les Pays-Bas espagnols. Et puis, bien entendu, effectivement, le pape Urbain VIII peut intervenir pour montrer quelle est la droite doctrine, ce qui fait le sacrement de mariage, c'est-à-dire le seul consentement des conjoints. Or, l'Assemblée des évêques, l'Assemblée du clergé de France, poussée par Richelieu, s'est prononcée elle aussi pour la nullité du mariage sur une argutie juridique, en distinguant à l'intérieur du mariage le sacrement, qui lui est imprescriptible, mais en y ajoutant la coutume qui peut modifier les consentements, et que par conséquent, les consentements étaient viciés dès lors qu'ils s'opposaient à la coutume politique du royaume de France. Alors, cette objection ne valait rien en droit canonique, mais le pape qui aurait pu intervenir était l'objet de pression de la part d'ambassadeurs du roi de France, lui demandant de taire son indignation et laisser les sentences du Parlement et de l'Assemblée du clergé aller leur cours. Alors, comment se termine l'aventure ? Eh bien, le malheureux Gaston, rentré en France, parce qu'il ne peut pas subsister longtemps en exil aux Pays-Bas, en 1634, donc, eh bien, il abandonne son épouse. Il rentre la mine basse en France, il accepte le verdict d'annulation, et c'est seulement en 1643, c'est-à-dire après la mort de Richelieu,
et juste avant la mort
de Louis XIII, qu'il revient à la cour et qu'il peut présenter sa fiancée ou son épouse comme on voudra. Et alors, après la mort de Louis XIII, à la fin du mois de mai 1643, on célèbre un troisième mariage, c'est plutôt on célèbre pour la troisième fois le même mariage. Il était éperdument amoureux de Marguerite de Lorraine, il lui a été fidèle, et ce mariage a été béni. Ils n'ont pas eu moins de 5 enfants, dont on peut retenir la carrière, ont été l'une duchesse de Toscane et l'autre duchesse de Savoie, je crois, donc, ce qui n'était pas médiocre.
Oui, des terres très importantes pour la diplomatie française, voilà. La Toscane et la Savoie.
Voilà, donc voilà l'issue du mariage des vicissitudes amoureuses de Gaston.
Mais c'est une belle histoire.
C'est une belle histoire. Alors, inutile de dire qu'il avait eu aussi beaucoup de passades et qu'on lui attribue un certain nombre d'enfants illégitimes qui ont joué un rôle éventuel à la cour dans la suite des temps.
Alors maintenant, nous allons parler politique et parler de sa place dans l'opposition à Richelieu et puis après, pendant la Fronde.
L'opposition a commencé dès ses plus jeunes années, donc, puisque ses projets amoureux matrimoniaux se trouvaient contrariés chaque fois par Richelieu. Et son gouverneur, le colonel d'Ornano, a été embastillé et mort au bout de quelques mois à la Bastille, alors qu'il n'en avait pas l'âge, mettons, que ses amis, le comte de Chalais, les Vendômes, ont été arrêtés, Chalais décapité, que toutes les prises de position politiques de Richelieu allaient à l'encontre de la conception modérée, pacifique, que Gaston avait des modes de gouvernement. Donc c'était très spontanément, assez naturellement, qu'il prend le parti de sa mère dans les querelles des années 1630 et qu'il choisit de s'exiler, comme elle, en 1631, en partant pour les Pays-Bas, pour Bruxelles. Enfin, d'abord pour la Lorraine, où, depuis Nancy, il publie en mars 1631 un manifeste politique qui est fait pour être diffusé dans tout le royaume, où il dénonce la tyrannie du cardinal de Richelieu qui se sert de la richesse du royaume, qui accapare tous les pouvoirs, qui dépossède les officiers et les magistrats de leurs prérogatives, qui est la censure des moyens du peuple. Et ce manifeste de 1631, je dirais, est dire qu'il dessine les grandes lignes des arguments d'opposition qu'on va retrouver constamment dans les années 1640-1650 contre la montée en puissance de l'absolutisme.
Pendant la Fronde, quel fut son rôle? Puisque dans le livre de Georges Détang, on voit bien qu'il est quand même avant tout négociateur. Il a toujours gardé sa conscience de prince royal, de prince de France.
Exactement. On voit que il a choisi l'exil entre 1631 et 1634. Et en 1634, il rentre en France, il se réconcilie avec son frère à la suite de la victoire des impériaux en Allemagne à Nördlingen. Cette victoire écrasante contre les Suédois lui paraît choquante. Enfin, je veux dire, loin de l'enthousiasmer, c'est un échec de la politique de Richelieu. Il le ressent, lui, comme un échec de la politique française, c'est-à-dire qu'il ne déteste pas assez Richelieu pour se réjouir d'une victoire des impériaux. Et c'est après l'écho donc de la bataille de Nördlingen qu'il choisit de rentrer en France parce qu'il se sent dépositaire des droits de la France en Europe. Alors, cependant, on le retrouve de nouveau en 1642 dans l'ombre de la conspiration de Saint-Mars et de Thou contre Richelieu. Enfin, quand Richelieu meurt en novembre 1642, il dit qu'il peut enfin respirer, que son pire ennemi a disparu. Alors, il va, après la mort de Louis XIII, il va accompagner la régence d'Anne d'Autriche, dont il reconnaît les pleins pouvoirs. Il a simplement, lui, le titre de lieutenant général de l'État et couronne de France, ce qui lui donne, il insiste, pour présider les conseils étroits où l'on traite de la guerre, et dans la mesure où, effectivement, il a une expérience militaire qui n'est pas négligeable.
L'épisode de Corbie en 1636 montre qu'il est un bon militaire.
Tout à fait, il a une capacité militaire qu'on lui a enseignée, comme ça fait partie des exercices princiers, il n'a pas peur à la guerre. Quand on dit qu'il est lâche, il est lâche intellectuellement, mais il n'est certainement pas lâche physiquement. Et au contraire, il a une audace extraordinaire.
Mais on peut imaginer qu'il était lâche intellectuellement parce que justement, il était toujours déchiré entre sa conscience de prince de France, et puis ce qu'il pouvait quand même essayer de réaliser. Alors c'était certainement personnage un petit peu shakespearien.
Oui, non, mais je crois qu'on peut tout à fait dire ça. Et dans l'épisode de la Fronde, enfin, épisode qui dure tout de même 5 ans, on voit qu'il tient en 1650, 1651, une position modérée. Il pense, comme les deux tiers des Français, que le seul obstacle à la paix civile, c'est Mazarin. Et que donc il faut l'éliminer des conseils et que pour y parvenir, il faut réunir des États généraux. Puisque comment connaître l'opinion, comment connaître le sentiment des groupes sociaux représentatifs, comme encore une fois les villes et la noblesse, Eh bien, la seule expression coutumière dans les institutions françaises, c'est la réunion d'États généraux.
Mais il n'y arrivera pas.
Alors, Mazarin avait consenti, dès mars 1649, à convoquer, à promettre, et à convoquer effectivement, des États généraux. Et puis, le rendez-vous, l'échéance, avait été reportée plusieurs fois. En 1651, la situation semble favorable. Il y a à Paris, à la fin de décembre 1650 et en janvier 1651, la concordance d'une assemblée du clergé de France et d'une assemblée de la noblesse, qui est une assemblée informelle, je veux dire, qui n'a pas de sanctions institutionnelles. Et il y a 800 nobles d'Île-de-France, de Normandie, enfin, surtout d'Île-de-France, qui sont réunis au Cordelier, qui débattent pendant 2 à 3 mois de l'avenir du royaume et qui proposent des solutions, c'est-à-dire on continue la suppression des intendants, des commissions extraordinaires, on choisit des discussions de paix, on rétablit les officiers dans l'exercice de leurs charges au lieu de commissaires du conseil, on donne à la noblesse et au peuple le libre exercice de leurs droits et on demande aussi, alors c'est ça qui est tout à fait nouveau, la possibilité de réunion périodique des États généraux. Alors, les États généraux doivent se réunir à Tours en septembre 1651. Et puis, toutes les élections se font effectivement dans la plupart des bailliages et sénéchaussées au cours de l'été 1651. Des cahiers de doléances sont rédigés et puis au dernier moment, la reine fait proclamer, comme c'était prévu, comme c'était la date, la majorité du jeune Louis XIV à l'âge de 13 ans et omet de poursuivre la réunion des États généraux qui est remise à une échéance suivante. On le promet pour la ville d'Orléans ou la ville de Sens 6 mois plus tard. Et l'échéance sera reportée ainsi plusieurs fois jusqu'en mai 1653, où on dit que pour le moment, la décision est suspendue. Donc au total, entre 1649 et 1653, il n'y a eu pas moins de 9 édits de convocation des États généraux, mais qui ne se sont jamais réunis. Ils ont été élus, on a rédigé des doléances, mais ils ne se sont jamais réunis. Alors pourquoi ? Alors que beaucoup de gens le souhaitaient et que Gaston en faisait une sorte de programme politique. Eh bien, alors, parce qu'en fait, le principal acteur de la Fronde, qui était le Parlement de Paris, n'en voulait surtout pas, parce que le Parlement prétendait représenter à lui seul une opinion publique, être le père du peuple comme le Sénat de Rome. Et la concurrence d'une instance comme les États généraux, qui était beaucoup plus représentative, qui aurait été
les
beaucoup
provinces
plus représentative,
étaient concernées.
Bien sûr, que le Parlement de Paris venait, était une concurrence que le Parlement n'admettait pas. Mazarin n'en voulait pas, parce que c'était lui qui aurait été la principale victime, et la reine trouvait que c'était aussi un empiètement sur la liberté de décision du Conseil du roi. Donc, pour toutes ces raisons, les États généraux n'ont pas pu se réunir. Alors, je crois qu'il faut comprendre là que c'était la dernière chance d'une version de monarchie mixte, c'est-à-dire d'une monarchie où le souverain est associé à une représentation du pays selon les normes sociales de l'époque. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer une démocratie représentative. C'est une assemblée d'État, une assemblée de corps, représentant le clergé, la noblesse et le tiers-État, c'est-à-dire avant tout les magistrats des villes. Et cette version-là n'était pas du tout inimaginable. C'est ce qu'on trouvait en Angleterre, en Espagne, dans les monarchies scandinaves. Et, toutes ces formes de monarchie avaient des réunions d'État, de communes, et on aurait pu donc avoir notre forme institutionnelle en France. Et si la périodicité des États avait été régulière, on aurait eu, à ce moment-là, ce serait vraiment les États qui auraient gouverné, parce qu'en fait, le roi aurait dû composer régulièrement avec une opinion, peut-être divisée, mais enfin une opinion exprimée constamment par une assemblée de députés.
Ne croyez-vous pas, Yves-Marie Berset, que les événements d'Angleterre ont joué pour faire reculer la France devant cette réunion-là ?
Oui, c'est effectivement un des éléments. Il faut dire que La Fronde était exactement contemporaine des révolutions d'Angleterre et de cet événement qui horrifiait l'opinion de l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire la mise à mort, le procès et la décapitation du roi légitime, du roi Charles Ier. De sorte que c'était un événement auquel personne ne voulait se référer, en tout cas, surtout pas les frondeurs qui ne voulaient pas être assimilés aux révolutionnaires d'Angleterre. Et je crois qu'effectivement, c'est cette hantise, cette ombre a pu faire échouer la perspective des États généraux.
Avec le recul du temps, les historiens ont compris dernièrement que c'était un grand politique, ce Gaston.
Alors, peut-être pas un grand politique, mais c'est-à-dire quelqu'un qui avait des idées. La Rochefoucauld dit qu'il connaissait tout dans le monde politique. Il avait une culture très, très étendue. On sait que sa bibliothèque comprenait énormément de livres d'histoire et de droit. Il était capable de citer les meilleurs auteurs et de raisonner en termes de politologue. D'ailleurs, dans la fin de sa vie, après le retour de la régente et de Mazarin, il va se retirer à Blois, mais on le voit intervenir dans la révolte en 1658 des sabotiers de Sologne, qui se trouve en Berry, tout près d'Orléans, révolte antifiscale, à la fois populaire et nobiliaire, et il sert de médiateur, il intervient pour obtenir l'apaisement. Je crois que c'est quelque chose là, un trait dont on peut lui savoir, enfin lui exprimer une sorte de reconnaissance. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, on le voit agir en modérateur et non pas en conspirateur virulent comme a pu l'être à certains moments sa mère, Marie de Médicis, lorsqu'elle était en exil aux Pays-Bas, où elle allait beaucoup plus loin que lui dans l'opposition à Richelieu. Et lui est toujours resté en deçà, il désapprouvait profondément le tour qui était donné au choix de gouvernement, mais il n'était nullement déloyal envers la couronne.
Puisque vous avez parlé de Blois, je crois qu'on va terminer par les bords de Loire, car son nom est attaché au château de Blois, à Chambord aussi.
À Chambord, il a effectivement beaucoup investi dans les restaurations de différentes ailes du château de Blois. Il avait autour de lui une cour, on l'a dit, d'artistes, d'hommes de lettres. Alors, en Île-de-France, sa résidence préférée, c'était le château de Limours, qui avait été construit bien longtemps auparavant. Il avait été construit pour la duchesse d'Étampes, maîtresse de François Ier. Et c'était là que, quand il quittait Paris, il se siégeait avant de se rendre un peu plus loin, à Blois ou à Orléans. Peut-être on peut terminer là un trait littéraire qui a son importance. C'est qu'à partir de 1643, il s'est fait le protecteur d'une troupe de comédiens dont il avait reconnu le talent, qui était dirigé, comme vous savez, par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, en 1643. C'est-à-dire que Molière est tout juste débutant, et qui sait le reconnaître, qui est le prince qui, d'ailleurs, réunit aussi des danseurs, des artistes, des musiciens, c'est le duc d'Orléans.
Toutes les collections d'antiques, des camées, toute cette collection qui est connue comme une des plus belles de l'Europe, après celle de Richelieu et de Mazarin, que sont-elles devenues ?
Alors, effectivement, c'est un autre aspect de son goût. Il était passionné, dès son plus jeune âge, de numismatique, de la collection des médailles romaines anciennes. Et il avait des émissaires qui, en Italie, en Allemagne, chez les orfèvres, dans les ventes, traquer pour lui les meilleures affaires, les objets les plus curieux. Alors, cette collection, ensuite, est devenue le cabinet des médailles du roi, qui est aujourd'hui le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Et puis, il était aussi passionné de botanique. Et on peut dire que la constitution du Jardin du Roi, qui deviendra le Muséum d'histoire naturelle beaucoup plus tard, enfin, tient beaucoup aux collections qu'il avait constituées. Il se faisait rapporter des Antilles, d'Afrique, des espèces rares qu'il essayait d'acclimater dans ses jardins de l'Orléanais.
Oui, il avait un côté humaniste.
Il était curieux de toutes les sciences de son temps. De la géographie, par exemple, également, en dehors de la botanique.
Oui, des cartes.
Des cartes, oui, amoureux des cartes et des antiques.
On pourrait peut-être dire, pour faire simple, que c'est un des derniers princes de la Renaissance et c'est un des premiers princes des Lumières.
Oui, je crois que vous avez là une image heureuse. On ne dira pas qu'il forme une charnière, mais il réunit les qualités intellectuelles que l'on attribue à chacune de ces époques.
Merci beaucoup, Yves-Marie Bercier.